à tous. Au micro, Sylvie Ligi, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro des Chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et G-Call. Alors, pour notre dernière chronique de l'année 2025, je suis contente d'accueillir Ilan Rosenquier, président de La Paix Maintenant, pour parler de sujets qui font aujourd'hui la une de l'actualité israélienne. La poursuite de la dérive antidémocratique, ou plutôt l'amplification des attaques, des coups portés à la démocratie. La situation dans les territoires dits de Judée-Samarie et la violence des colons, des jeunes des collines qui provoquent en retour la violence des Palestiniens. Et les élections à venir qui suscitent beaucoup d'espoir et soulèvent la question du vote arabe qui pourrait être cette fois le faiseur de roi. Si nous avons le temps, nous évoquerons également le prix Israël qui sera peut-être décerné à un président américain. En tous les cas, c'est ce qu'on a appris ce matin. Donc voilà, bonjour Ilan.
Bonjour Sylvie.
Et nous allons commencer peut-être par la situation dans les territoires de Judée, dit de Judée-Samarie. Voilà.
Oui. Alors moi, je parle de Cisjordanie ou de territoire occupé. C'est effectivement un sujet important qui, quelque part, a tendance à passer sous les radars. C'est d'ailleurs assez étonnant lorsqu'il y a des incidents dans ces territoires à l'encontre de Palestiniens. Il faut vraiment le plus souvent chercher dans la presse pour avoir la recension et la relation de ce qui s'est passé, sauf si, bien sûr, il y a des Juifs qui ont été blessés ou malheureusement tués dans le cadre de ces incidents. Mais sinon, qu'il s'agisse d'attaques, qu'il s'agisse d'égorgement du bétail de Palestiniens, qu'il s'agisse de déracinement d'oliviers, c'est considéré comme un sujet qui n'est pas suffisamment important pour être traité dans les médias israéliens, à la différence, comparaison n'est pas raison, de la moindre attaque antisémite qui peut se produire de par le monde, et à ce moment-là, qu'il s'agisse d'un Israélien insulté dans un restaurant en Grèce, on peut être sûr qu'il n'y aura pas besoin de jumelles pour trouver l'information qui relate cet incident dans la presse israélienne.
Alors, la destruction des récoltes, effectivement, et même, ça va même beaucoup plus loin parce que ceux qui procèdent à ces violences contre souvent des paysans, des petits villages, des hameaux de paysans, ils sont, comme on dit en français, ils ne sont pas inquiétés ou à peine.
Oui, alors l'autre élément, c'est effectivement la tolérance, la mansuétude à l'égard de ceux qui commettent ces exactions et qui ont tendance à créer une nervosité, un esprit de revanche et de vengeance chez les Palestiniens. Mais au-delà de ces incidents, il faut bien voir, prendre conscience de l'ampleur du phénomène de colonisation, du développement des implantations, au-delà de ces incidents. La nouvelle méthode pour occuper ou pour prendre le contrôle de la Cisjordanie, c'est la création d'avant-postes ou de fermes, à la différence de la création de colonies qui sont beaucoup plus longues à planifier, qui coûtent beaucoup plus cher. On met une roulotte au sommet d'une colline. Il y a deux ou trois jeunes des collines, comme on les appelle, jeunes délinquants, qui prennent possession de cette roulotte, qui commencent à élever un troupeau de chèvres. À ce moment-là, il y a besoin de pâturage. Donc, on commence à clore des parcelles qui sont suffisamment importantes, qui souvent empiètent sur les terres des Palestiniens. Et donc, avec quelques personnes et un petit peu de bétail, on arrive à saisir une superficie de terre qui est importante. Alors, il faut bien voir, par exemple, que depuis 1996, il y a eu 298 avant-postes qui sont installés depuis 1996. Depuis 2023, il y a 121 postes qui ont été installés. C'est-à-dire que c'est un peu moins de la moitié de ces avant-postes qui ont été installés au cours de ces trois dernières années par rapport à ce qui existait en 1996. Donc, on voit l'ampleur et l'accélération. Ces avant-postes, ça représente une superficie donc qui est importante, sans parler de ce qui se passe à Jérusalem, où là aussi, il y a des destructions importantes de propriétés palestiniennes, sous prétexte, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'elles n'ont pas obtenu les autorisations de construire, donc elles sont détruites normalement, légalement, sauf que ces autorisations de construction sont pratiquement impossibles à obtenir pour les Arabes, et donc, de la même façon que les Juifs disent le développement des colonies est nécessaire compte tenu de la démographie, c'est également vrai pour les Palestiniens, sauf que d'un côté, il y a des autorisations de construire qui sont données et de développement de lieux de vie, alors que du côté des Palestiniens, il y a un refus systématique. Donc, effectivement, ils construisent illégalement et on assiste, depuis que Ben-Gvir a été nommé à la tête de la police, entre guillemets, milice qu'il est en train de créer, une augmentation de ces destructions.
Voilà, alors effectivement, Ben-Gvir, on va en parler parce que il renforce en fait son ingérence dans le travail de la police. Il est à l'initiative d'un projet de loi qui demande la peine de mort pour les terroristes arabes, bien entendu, devant un tribunal militaire. Les violations du droit de manifester viennent à répétition. Il y a des arrestations arbitraires, confiscation de pancartes, dispersion abusive, fouilles au corps après arrestation d'un manifestant ordinaire. Voilà. Et donc, ça fait partie, en fait, de ce jeu et de la transformation de la police en milice, en fait. Et ça rentre dans la poursuite poursuite décuplée même des attaques contre la démocratie.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a deux choses importantes. Alors, sur l'histoire de la colonisation, je voudrais juste en dire encore un mot. Il est clair que cette politique agressive à l'égard des Palestiniens menée par les colons, ce n'est pas simplement quelques têtes brûlées, mais c'est quelque chose qui est toléré par l'establishment et qui crée une situation sécuritaire explosive qui risque de dégénérer à chaque instant. Et on se demande même dans quelle mesure, quelque part, il n'y ait pas certaines forces israéliennes, de l'extrême droite israélienne, qui espèrent effectivement qu'il y ait des incidents plus importants, des émeutes, voire même qui pourraient éclater, de façon à pouvoir mener la politique du Zbeng à Marnou, c'est-à-dire de rentrer en force et de raser, de mettre à plat cette population, un petit peu sur le modèle de ce qui s'est passé
à Gaza.
Et donc de faire partir ces Palestiniens en Jordanie, ce qui, bien sûr, mettrait à mal les relations entre Israël et la Jordanie, parce que c'est quelque chose qui serait très mal vu de la part du régime hachémite, qui a déjà suffisamment de problèmes. Alors, la politique de Ben-Gvir, elle s'articule, bien entendu, avec ce processus, on en parlera tout à l'heure, de cette révolution judiciaire, parce que dans sa politique, par exemple, de nomination qui lui permet de prendre la main sur, effectivement, la police, il y a également le refus de nomination d'un certain nombre d'officiers supérieurs qui, normalement, auraient dû bénéficier d'avancement dans leur carrière. Avancement qu'il récuse, en particulier pour un dont on a beaucoup parlé parce qu'il avait été impliqué dans les investigations contre Netanyahou. Et quelque part, c'est un avertissement. Non seulement il nomme les officiers, mais il fait passer un message qui est un avertissement en disant « Voyez, si vous ne suivez pas ma ligne, si vous voulez avoir une orientation, une politique qui est différente de celle que moi je veux, voilà ce qui vous attend. Votre carrière est bloquée. c'est quelque chose qui se passe dans la police, c'est quelque chose qui, dans certains cas, on a tendance à vouloir aussi transposer cette mesure à l'armée. Là, je ferai référence, on avait déjà eu l'occasion de le mentionner, à cet officier supérieur qui fait partie de l'organisation civile Achim Laneshek, frère et sœur d'armes, qui normalement aurait dû être promu, et sa promotion a également été bloquée par le ministre de la Défense. Donc on voit là, ministère de la Sécurité nationale, ministère de la Défense, ça se produit également dans notre ministère, il y a un certain nombre de promotions de gens intègres, professionnels, dont l'avancement est stoppé, parce qu'ils ne rentrent pas dans la ligne qui est voulue par les ministres d'extrême droite qui actuellement gèrent tous ces dossiers.
Alors, sur les attaques contre la démocratie, on pourrait, puisque s'il est question de Achim Laneshek, par exemple, de frères et sœurs d'armes, l'interdiction récente à l'un d'eux de faire une conférence comme il avait été prévu dans une école, dans un lycée du centre du pays. Bon, ils ont fait le cours, la conférence a eu lieu, mais à l'extérieur de l'établissement scolaire, tout simplement parce que cette personne, donc ce responsable de Achim Laneshek, ne convient pas au ministre de l'Éducation. En revanche, faire porter des tefilines dans tous les établissements scolaires ne pose strictement aucun problème et on peut le voir dans les cours d'école. Mais il y a quand même bien pire, la violence qui est orchestrée contre les figures de proue des contre-pouvoirs. Par exemple, le juge Yitzhak Amit, qui a été nommé président de la Cour suprême en janvier de cette année, de 2025, contre l'avis de Yariv Levin, bien entendu. Il y a une campagne contre lui, il est désavoué, boycotté, etc. C'est-à-dire qu'on ne l'invite pas aux réunions où il doit venir, etc. Et j'ai lu tout à l'heure, alors je ne sais pas si ça a été dit ce matin ou hier, mais que Smotrich a dit « nous le piétinerons ». Donc il y a un appel, il y a clairement un appel à la violence, voire au meurtre contre...
Effectivement, c'est une déclaration de Smotrich qui a dit que le juge a mis, dans la mesure où il piétinait la démocratie, il faut qu'il comprenne qu'à piétiner la démocratie, il sera piétiné également. Ce qui est effectivement...
C'est un peu joué sur les mots.
Oui,
hein.
Oui. Ce qui est quelque part une menace à peine voilée à son encontre et qui a suscité un certain nombre de réactions essentiellement des leaders de l'opposition. Quelques personnalités de la majorité ont pris une certaine distance à l'égard de cette déclaration en disant, comme c'est le cas habituellement, que ça a été déformé, que ce n'est pas les propos qu'il a tenus, qu'on a manipulé sa déclaration. Mais ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part d'un certain nombre de ministres, de passer outre à la loi. Il y a eu un débat sur la conscription à la commission de la défense du Parlement israélien. Le président de cette commission, le député Bismuth, a cité le nom de Gali Barav-Mehara, qui est donc la procureure général du gouvernement, en disant l'avocate Mehara. Donc, ça a été repris par des... personnalités de l'opposition qui participaient à cette commission et qui ont dit non, elle est procureure générale. Bismuth a répliqué oui, mais elle a été licenciée. Et les leaders de l'opposition ont dit non, ce licenciement a été récusé par la haute cour. Et Bismuth a continué en disant la députée pourra venir témoigner comme n'importe qui. C'est-à-dire qu'un refus d'accepter les décisions qui ont été rendues par la haute cour, et on a le même phénomène avec la volonté de fermer la station de radio, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler,
de
Galet Tzahal. La haute cour a stoppé pour l'instant cette décision de fermeture. Le ministre de tutelle a annoncé qu'il passerait outre et que le processus de fermeture continuerait à se dérouler. C'est-à-dire qu'il y a une
volonté... Et c'est pour le mois de mars, je crois.
Oui, mais le processus est enclenché. C'est-à-dire que le respect de la loi ne s'impose pas au ministre et on voit donc bien le danger que ça,
que ça représente. On parlait de crise institutionnelle, finalement, c'est au-delà d'une simple d'une crise institutionnelle. Il y a vraiment un refus de la part de la coalition, des ministres, etc.
Ce qui s'est passé tout au long de l'année, là aussi, à part quelques moments particuliers où les projecteurs ont été braqués, c'est quelque part une progression lente de ce processus de révolution judiciaire. Alors, je parle de processus par rapport à révolution, c'est parce qu'à bas bruit, il y a près d'une quarantaine de projets de loi qui portent atteinte au fonctionnement de la démocratie, qui ont été déposés, qui ont été discutés, qui sont passés en première, en deuxième lecture. Ce n'est donc pas des phénomènes dispersés de ci, de là, c'est une entreprise systématique, cohérente, qui concerne la justice, qui concerne les services de sécurité, qui concerne la presse, qui concerne la justice, qui sont mis en branle. Et donc, tout ça fait qu'effectivement, on arrive à véritablement, certains hésitaient à parler de coup d'État judiciaire, en tous les cas, de changement fondamental de la démocratie israélienne qui cesserait, qui perdrait en fait... son caractère
une démocratie, quoi. Voilà. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On peut dire un mot quand même des élections à venir. La société civile se mobilise pour assurer la validité du scrutin, parce qu'on craint quand même des risques, des fermetures de bureaux de vote un peu intempestives, bien entendu des bourrages d'urnes. Et voilà. Et d'un autre côté, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement cherche à élargir, pour le moment, en tous les cas, cherche à élargir les motifs de disqualification, tant des partis que de certains candidats. La machine à poison publie des fake news à tour de bras. J'ai vu un clip larmoyant produit par le bureau du Premier ministre qui attaque de manière extrêmement violente Frères et Sœurs d'Armes, dont on a parlé tout à l'heure, avec des citations totalement sorties de leur contexte, uniquement dans le but de les disqualifier, de leur faire perdre toute confiance. Enfin, voilà.
Tout à fait. Alors, les Frères et Sœurs d'Armes, pour l'instant, ne se présentent pas aux élections.
Non, ils ne sont pas politiques.
Donc, ça rentre dans ce processus de délégitimer tout ce qui est protestation civile.
Protection aussi du bon déroulement d'un scrutin.
Déroulement, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de textes qui passent actuellement concernant, comme tu l'as dit, le risque de disqualification, la commission électorale dont la composition va être changée, dont le président d'ailleurs a démissionné, qui risque de vouloir disqualifier un certain nombre de listes, en particulier les listes arabes, parce qu'elles vont avoir un rôle important dans le cadre de ces élections qui doivent soutenir normalement s'il n'y a pas de
dissolution. Oui, ils peuvent être les faiseurs de rois, finalement, les partis arabes, non ?
Je ne sais pas si... Alors, ils peuvent être les faiseurs de rois si, quelque part, ils participent et on les fait participer au scrutin et en fonction des voix qui seront les leurs. Normalement, les élections doivent se tenir fin octobre 2026. Elles seront peut-être avancées en fonction de ce que Netanyahu jugera conforme à ses intérêts ou non. Ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, tous les sondages montrent que la majorité actuelle régresse. Le dernier sondage de Cannes montre que la coalition aurait, si les élections se déroulent maintenant, donc les sondages ne valent pour ceux qui y croient, ouais. C'est vraiment une photographie
instantanée,
comme on dit, donc avec toutes les précautions. Mais la tendance montre qu'il y a quand même un recul. Là, il serait à 51 députés. L'opposition serait à 59 députés.
Et la différence est plus importante que ce que j'avais noté.
Voilà.
C'est vraiment une tendance.
Il faut relativiser parce que les sondages divergent selon les sources. Mais la tendance générale, c'est effectivement un recul de l'opposition. Bon, en fait, on ne sait pas très bien ce qui va se passer parce qu'il y a un certain nombre de listes dont il n'est pas clair qu'elles se présentent ou elles ne se présentent pas, ou si elles vont passer le seuil d'éligibilité ou non. La liste sur les réservistes, par exemple, dans des sondages précédents, ne passait pas le seuil d'éligibilité. Dans le sondage actuel de Cannes, ils le passent et donc ils ont 4 sièges en plus, qui évidemment sont pris. Ce qui est important, voilà,
Le parti de Smotrich, par exemple, ne passe pas.
Alors, le parti Smotrich ne passerait pas. Oui, ce qui va probablement se passer, c'est qu'il y aura une alliance qui va se faire d'une façon ou d'une autre avec la puissance juive Otzma Yehudit, pour que les voix des uns ne soient pas perdues, quitte à ce qu'après, une fois élus, ils se rescindent ou chacun fonctionne indépendamment. Mais il y aura des magouilles, parce que c'est légal, mais des phénomènes, des alliances qui vont se nouer pour essayer de perdre des voix. Ce qu'on voit, c'est que les listes arabes ont 10 voix et la façon dont elles participeront...
10 sièges, tu veux dire.
10 sièges, pardon. La façon dont elles participeront au jeu électoral est effectivement très importante et ça déterminera beaucoup de choses. Lieberman ne veut pas entendre de participation des Arabes au gouvernement, uniquement un gouvernement juif et sioniste. Golan est le seul qui a pris position jusqu'à présent pour entériner, bon, sous réserve de, bien entendu, mais il n'y a pas d'opposition de principe à ce que les listes arabes participent, les partis arabes participent au gouvernement. Ça fait partie un peu de l'impensé et des insuffisances de la démocratie israélienne qui a tendance un petit peu à fonctionner en vase clos. Et la question des Arabes, essayer un petit peu, c'est l'éléphant qu'on cache. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est la notion, on arrive en fin d'année, c'est une nouvelle année qui commence. Il y a quand même deux phénomènes qui, me semble-t-il, permettent non pas d'être optimiste, mais qui sont porteurs d'espoir, d'ouverture. C'est d'une part le dynamisme étonnant de la société civile qui... quelles que soient les circonstances, qui s'est mobilisé contre le coup d'État judiciaire, qui a continué à se mobiliser, à s'organiser après un petit moment de calme lorsque le 7 octobre a éclaté, mais qui très vite a repris son rôle de suppléer les carences et les défaillances du gouvernement central qui a été complètement débordé, qui a continué après pour obtenir la libération des otages, qui a évité qu'un certain nombre de lois du coup d'État judiciaire passe et qui a retardé énormément.
Il y avait... Et c'est tous les samedis depuis 3 ans, et c'est
tous
énorme.
Tous les samedis,
hein, quand même.
Ça continue, même si maintenant les manifestations sont de moindre ampleur qu'elles ont pu l'être. Mais elles continuent, rien ne dit qu'elles ne vont pas se mobiliser. Et l'autre élément, c'est effectivement la tenue des élections. Qu'elles aient lieu en octobre prochaine, qu'elles aient lieu en octobre ou qu'elles soient avancées, ces élections sont susceptibles de permettre un changement en fonction des résultats du vote. Donc, rien n'est acquis. Il n'y a pas de raison d'être optimiste, mais en tous les cas...
Il n'y a pas de raison d'être trop pessimiste non plus.
Non plus. Elles donnent une ouverture. Et il faudra qu'effectivement, aussi bien là-bas qu'ici, ceux qui sont attachés à un Israël démocratique, à un Israël ouvert, s'engouffrent dans cette ouverture et fassent le maximum pour que le résultat des élections... soit conforme au message et à la nature de l'Israël auquel nous sommes attachés.
Alors, sur ces bonnes paroles, J. Cole et La Paix Maintenant vous souhaitent une excellente fin d'année et vous présentent leurs vœux pour une meilleure année 2026 et effectivement du bien pour Israël.